tous, de la mafia et du Brexit au programme de votre grande table. Il dit aimer les sujets qui brûlent. Mosco Bucco, réalisateur de Corleone, le parrain des parrains, diffusé ce soir sur Arte. Et notre première invitée, il a enquêté sur cette branche, ce bras de la mafia sicilienne. Il nous racontera comment il a procédé et surtout ce qu'il en a retenu de l'âme humaine. Suivi de la chercheuse Pauline Schnapper, dans un essai qui vient de paraître chez Odile Jacob, elle s'interroge sur l'avenir du Royaume-Uni. Comment en est-on arrivé là et surtout la Grande-Bretagne a-t-elle atteint un point de non-retour? Brexit, stop ou encore? Rendez-vous à partir de 12h55 pour en parler. Pour l'heure, bienvenue autour de votre grande table. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
40 ans de documentaire, ça vous campe un homme derrière sa caméra d'abord. Patiemment, il enquête sur des faits divers ou des affaires historiques, criminelles ou politiques. La trilogie des mémoires d'Aix, un corps sans vie de 19 ans. Berlusconi, l'affaire Mondadori, Roubaix, commissariat central, affaires courantes, ou encore ils étaient les brigades rouges. Devant sa caméra, ensuite, il invite des hommes criminels ou résistants, flics ou voyous. Celui-là était particulièrement méchant, malgré ses airs d'agriculteur débonnaire. Il en a fait un film, il a filmé son histoire. Ce film sera diffusé ce soir sur Arte, extrait.
Rina era un uomo semplice.
Rina était un homme simple, mais avec un caractère de fer. Mais avec ce caractère de fer, il met en avant l'humilité. Il n'apparaît pas agressif ou mal élevé, il est humble. Il donne l'impression de vouloir faire le bien. C'est un homme bienveillant qui fait preuve de bienveillance, mais à condition que tu fasses ce que lui a décidé.
Bonjour Mosco Levi Bucco.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il semblerait que votre matière première, comme on dit, celle de vos films, ce sont les gens. Cette ambiguïté qu'on entend là, dans cette voix, celle de ce témoin parlant de Rina, est-ce que c'est ça qui vous a intéressé chez cet homme?
Oui, enfin, ce qui m'intéresse, c'est les sujets effectivement qui brûlent, les sujets comme la mafia, et de comprendre qui sont ces gens, qui sont des mafieux, si vous voulez. Et en fait, si vous voulez, comme je le raconte assez souvent, c'est un sujet qui est né de la fascination que j'avais pour le film de Coppola, et le roman de Mario Puzo, qui a donné pour nom à Marlon Brando Vito Corleone. Donc, pour moi, ça résonnait d'une manière presque mythologique. Je me suis trouvé un jour devant un directeur de la police judiciaire à Palerme qui m'a dit « Non, c'est une horde de barbares ». Donc j'ai voulu, si vous voulez, déconstruire cette fascination que j'avais, moi, pour ce nom, Corleone, cœur de lion.
Fascination qui n'était pas si naïve dès le départ, j'imagine.
Non, cinématographique, si vous voulez. Ouais. Le Parrain, c'est fait partie de ma cinémathèque. Donc c'est un très grand film. Marlon Brando est exceptionnel. Mais disons que ça reste une figure très romanesque.
Vous dites fascination, c'est aussi ça la particularité et la difficulté de ce type de documentaire que vous avez réalisé, c'est-à-dire comment raconter une histoire sans écrire une légende, comment raconter l'histoire de cet homme, de ce roi parrain de la mafia, Rina, sans que la biographie ou l'enquête vire à la géographie.
Ah non, moi je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que la géographie, je peux le faire avec des résistants, je ne peux pas le faire avec des salopards. Donc, si vous voulez, non, là, j'avais vraiment, bon, je voulais comprendre qu'est-ce que c'est qu'un mafieux. Comment on entre dans la mafia, comment on est mafieux, en suivant le destin de cet homme qui était le fils d'un paysan pauvre, qui voit son père mourir à ses côtés, sous l'effet d'une bombe qu'il essayait, une bombe de la guerre qu'il essayait de démonter, à 13 ans, et qui a un destin à la Richard III, si vous voulez. Il lui manque la bosse pour être Richard III, mais à coup d'intrigue et d'assassinat.
Un destin tragique. Un destin tragique, shakespearien.
Oui, pour moi, oui. Si vous voulez, c'est ce qui m'a attiré. Quand j'ai commencé à lire des choses sur Rina, que je ne connaissais pas, je ne suis pas un spécialiste de la mafia. Quand j'ai commencé à lire, effectivement, il y a le côté shakespearien qui m'a attiré. Donc, je me suis dit, si vous voulez, je ne sais faire de documentaire que si je raconte une histoire. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire, pas d'un monstre, mais d'un homme d'un tyran sanguinaire.
Mmh. Ce fils de paysan, vous l'évoquiez, de Corleone, près de Palerme, comment est-il arrivé au sommet de Cosa Nostra, cette mafia sicilienne ?
Par l'intrigue et par le meurtre. C'est-à-dire qu'il a fait ce que personne n'osait faire auparavant. Bon, l'intrigue, elle existe partout, si vous voulez, mais lui, il a poussé l'intrigue. Il avait des gens partout. Et des gens, comme à la manière stalinienne, si vous voulez, il avait toujours deux adjoints, et il montait l'un contre l'autre, si vous voulez. Il avait des infiltrés dans toutes les familles mafieuses de la Sicile, toutes. Et il est arrivé au pouvoir, donc, par exemple, quand il déclare la guerre à la mafia aristocratique de Palerme, richissime de Palerme, il avait des gens au sein de ces familles qui lui disaient « Attention, ils veulent te convoquer à une réunion et au cours de cette réunion, ils vont te tuer. » Donc il ne se rendait jamais aux réunions. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a anticipé tout ça et le jour de l'anniversaire du principal chef de la mafia de Palerme, qu'on appelait le prince de Villa Grazia, eh bien, il l'a fait tuer par son commando de tueurs.
Mmh. Totò Riina, donc il est né dans les années 30. Vous dites qu'il était particulièrement stratège dans sa manière aussi de gérer
les hommes autour animal. De lui. Mmh. Il devinait où était le danger et il ne s'arrêtait devant rien.
Et on l'entendait dans ce témoignage, c'était un homme à double face.
Qui était en cellule avec lui.
Extrêmement calme d'apparence.
Oui, absolument. Et humble. Il se fait passer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore, si vous voulez. Sur sa tombe, ils ont mis la famille a mis la photo d'un homme qui sourit avec une cravate, comme s'il se présentait à la mairie de Corleone. Mmh. C'est tout sauf ça. C'est un homme redoutable.
C'est encore l'image qu'il veut donner dans son procès, à l'occasion de son procès.
Absolument. Mais, vous savez, les repentis me disaient une chose terrifiante pour vous donner le côté shakespearien du personnage. Riina avait l'habitude d'inviter ses alliés, qu'il voulait éliminer, à déjeuner. Et après leur avoir offert un bon déjeuner, il les faisait étrangler. Alors, quand il vous invitait à déjeuner, on ne savait pas si on allait en revenir. Les gens qui étaient invités, ses alliés, ses tueurs, ne savaient pas s'ils allaient en revenir. Mais par contre, s'ils ne se rendaient pas au déjeuner, là, ils étaient sûrs d'être éliminés. Parce que cela veut dire qu'ils se méfiaient. S'il y avait une once de méfiance dans leur tête, pour Riina, c'était, comment dire, la conclusion, c'était qu'il fallait les éliminer. Donc vous voyez, vous vous rendez au déjeuner, vous ne savez pas si vous allez en sortir vivant, mais vous ne vous rendez pas au déjeuner, là, vous êtes sûr qu'on va vous éliminer un jour ou l'autre.
Alors, il avait un surnom, Totò Riina.
Oui, il y en avait plusieurs. Le court, le fauve, la belva. Le court parce qu'il était trapu, petit de taille. Et la belva, le fauve.
Qu'est-ce qui a provoqué sa chute ?
Ah, ben voilà, c'est le côté shakespearien encore, si vous voulez. Alors, ce qui a provoqué sa chute, ce sont des magistrats d'abord. C'est un magistrat. Si vous voulez, moi, en faisant un film sur Riina, je suis tombé, je ne veux pas dire amoureux, mais j'ai compris la grandeur d'un homme comme Giovanni Falcone, comme Paolo Borsellino, et le pool de magistrats qu'il y avait autour d'eux. Si vous voulez, Giovanni Falcone, à un moment donné, apprend qu'un homme de la mafia de Palerme, qui se trouve au Brésil, a été arrêté par la police brésilienne. Cet homme, Riina, a tué toute sa famille parce qu'il ne pouvait pas le tuer lui. Il a essayé de le faire tuer au Brésil, il n'y est pas parvenu. Donc, cet homme a envie de se venger, mais il n'a pas les moyens de se venger. Quand Falcone va le trouver au Brésil, parce qu'il a été arrêté, il le convainc de collaborer avec lui. Parce que Falcone ne sait même pas que la mafia sicilienne s'appelle Cosa Nostra. On n'a jamais réussi à pénétrer la mafia sicilienne. Grâce à ce repenti, qui s'appelle Buscetta, Tommaso Buscetta, Falcone va créer avec lui une sorte de pacte, de complicité. Il va lui révéler ce que c'est la mafia, qui est l'auteur des crimes qui ont été commis, et notamment qu'il n'y a pas un seul meurtre qui a été commis en Sicile sans l'accord de la commission. Donc, les membres de la commission, qu'ils aient commis ou non réellement le meurtre, sont coupables. Il a réussi à les faire condamner à la perpétuité parce qu'ils faisaient partie de ceux qui ont commandité le meurtre, pas parce qu'ils l'ont exécuté. Donc, si vous voulez, il tombe par l'alliance entre un juge, un pool de magistrats, Falcone, Borsellino, Di Lello, etc., et un repenti qui veut se venger de Riina, et qui n'a pas les moyens de le faire. Donc, comme le dit le procureur dans le film, le repenti se sert du magistrat comme d'une Kalachnikov qu'il n'a pas.
Vous dites un repenti. oui. À ce moment-là.
Il ne l'est pas.
Ou surtout d'autres considéraient, en parlant de Tommaso Buscetta, que c'était un traître.
Alors, c'est le titre. Non, c'est surtout pas un traître.
Ah, mais c'est le titre en tout cas qu'a donné, juste je dis ça, et vous nous expliquez pourquoi à vos yeux ou à vos oreilles ça n'en est pas un.
Voilà.
Le traître, c'est le titre du film de Marco Bellocchio qui était présenté à Cannes au dernier festival qui sera en salle en France fin octobre et qui revient sur les aveux de Buscetta qui était l'un des membres donc de la Cosa Nostra qui a parlé à Falcone. Pourquoi c'était pas un traître pour vous?
C'est pas un traître. Pour moi, c'est un scandale qu'on l'appelle le traître parce que Rina l'appelle le traître. Donc c'est prendre le point de vue de Rina. C'est un vengeur à la rigueur ou ce que vous voulez, mais c'est pas un traître. Si vous voulez, c'est un collaborateur de justice. On les appelle comme ça aujourd'hui. Non, j'ai pas été content. Enfin bon, moi je suis un petit documentariste. J'ai pas à juger un grand cinéaste comme Bellocchio. Mais il y a des choses qui vont pas. Si vous voulez, il fait dire. Exact, parce que là, on a la même séquence dans le documentaire et on l'a effectivement dans le film de Bellocchio, notamment la confrontation entre Rina et Buscetta. Et malheureusement, Bellocchio est fidèle aux propos que tient Rina et il n'est pas fidèle aux propos que tient Buscetta. Buscetta était un seigneur. Buscetta, à un moment donné, parle de quelqu'un, d'un chef mafieux et dit c'était un Richelieu. Personne ne sait qui est Richelieu, sauf lui. Et Buscetta, à un moment donné, lui dit tu es, en italien, tu es l'artificier de la mort. Dans la disparition des personnes chères à moi. Et Bellocchio lui fait dire « Tu as zigouillé les miens ». Non, tu es l'artificier de la mort des personnes qui me sont chères. C'est pas « Tu as zigouillé ». Donc il rabaisse Buscetta et j'ai pas été très heureux de ça. Et il donne une vision complètement hystérique du président du tribunal, faisant oublier que le président du tribunal était un civiliste, c'est-à-dire qu'il s'occupait de civils, et que tous les présidents des tribunaux avaient refusé de présider cette cour, tous. Sauf lui, civil. Ils étaient tous sauf hystériques. Il avait devant lui des cages dans lesquelles il y avait des mafieux qui hurlaient, mais il n'était pas hystérique. Donc là, on le montre, etc. Par ailleurs, Falcone, je trouve c'est dommage. Enfin bon, on ne va pas faire la critique.
Voilà, là, vous avez fait la critique du film. Hein, tiens.
Par contre, il y a une chose que je voudrais vous dire. Ouais. Je voudrais vous faire une déclaration.
Faites.
Moi, je suis un garçon qui, à 15 ans, qu'on envoie en pensionnat. Et on me donne pour compagnon de pensionnat, c'est loin de Paris, et on revenait que tous les 3 mois, un transistor. Et on ne pouvait pas écouter le transistor. Donc je l'écoutais de nuit, au fond de mon lit, mais la tête vers les pieds. Et un soir, j'entends Siegfried de Jean Giraudoux sur France Culture. C'était une lecture ou un enregistrement. Et pour moi, la mer Rouge s'est ouverte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le procureur Ayala dit « Il y a de la mafia là où il y a de l'argent. Là où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mafia. » Moi, je dis ça autrement. Moi, je dis que là où il y a de la culture, il y a beaucoup moins de mafia. Et ce qui manque à Corleone, c'est justement la culture. Ce qui manque à Corleone, c'est France Culture. Moi, je biberonne à France Culture. Mon rêve, c'est de faire une exposition, Gérard Fromanger, à Corleone, où il n'y a rien. C'est un désert culturel. Si Gérard Fromanger arrive à Corleone, avec 10 œuvres simplement, je pense que la mer Rouge s'ouvre et que la mafia recule.
Gérard Fromanger, ça a été un camarade de lutte?
Non, c'est pas un camarade de lutte.
Pour vous?
Non, moi, c'est devenu un ami qui m'est cher et dont j'admire l'œuvre. Et je me dis, si je mets les œuvres de Gérard Fromanger à Corleone, c'est un grain de sable dans la mafia. Voilà.
La mafia y est nulle part et partout, en Sicile, à Corleone. Oui. Voilà ce qui est dit aussi dans le film. On aimerait pouvoir dire que France Culture y est nulle part et partout aussi, mais c'était pas le cas. En attendant vous êtes avec nous, Mosco Lévy Boucaud, pour nous parler de ce film qui vous a pris combien de temps? 5 ans? 6 ans?
Oui, parce que, si vous voulez, moi j'aime bien faire un film et vivre en même temps. Ah. Et pour moi, c'était vivre à Palerme. Donc, si vous voulez, j'avais un vélo. Au début, il était normal. Après, avec l'âge, il est devenu électrique. Et je passais d'un endroit à l'autre. Je consultais les journaux dans un endroit, à l'Institut Gramsci. J'allais faire des interviews en vélo, voilà.
Pour comprendre et retracer cette histoire du clan Corleone, vous avez rencontré d'anciens bras droits et exécutants du mafioso, des commissaires et des juges aussi. On imagine que ça a été long et fastidieux. Mais est-ce que vous diriez que le projet est arrivé au bon moment, dans une période où les langues étaient prêtes à se délier?
Oui et non. Alors, il faut que je vous dise une chose. En fait, au début, c'était facile. Enfin, je pensais le faire avec des journalistes spécialisés. Parce qu'en Italie, il y a des journalistes qui sont spécialisés de la mafia sicilienne. Et c'est vraiment des fins connaisseurs. Puis après, je me suis dit, oh, ça va être un documentaire en pantoufle. Donc, il faudrait que je me secoue un tout petit peu. Si vous voulez... Non, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Mais il y a eu un livre fait par une Française, Delphine Sauber, journaliste à l'Express, qu'elle a fait avec un camarade de l'Express, je crois qu'il s'appelle Agé, qui s'appelle « Vie de mafia ». Elle a interrogé un repenti et j'ai été bouleversé par ce témoignage. C'est une interview d'un repenti. Je l'ai rencontrée, c'est elle qui m'a mis sur la voie, je dirais V-O-I-E et V-O-I-X, des repentis, de chercher à avoir la collaboration des repentis. C'est possible que Brusca ait trouvé que c'était le moment, parce que j'étais étranger et parce que ça s'est bien passé entre nous. On m'a accordé
Brusca
une journée.
Qui est Giovanni Brusca?
Giovanni Brusca, c'était, on l'appelle Boucher. C'était le bras droit de Riina et c'était l'homme qui a actionné la bombe qui a tué Falcone.
Et il vous a parlé?
Et il m'a parlé, il devait me parler un jour, et finalement j'ai réussi à rester 8 jours avec lui. Et aujourd'hui, quand il bénéficie de permission, ben, on s'écrit.
Corleone, extrait de votre documentaire diffusé ce soir sur Arte.
On fait de toi un tueur en te faisant d'abord participer à des réunions. Puis on parle devant toi d'une personne qu'on vient de tuer pour te faire comprendre qu'elle a été tuée par quelqu'un comme toi. Puis un proche te demande si tu as le courage de tuer une personne, si tu t'en sens capable, si ton doigt fonctionne. Cela veut dire si tu es capable d'appuyer sur la gâchette. Jusqu'au moment où on te met au pied du mur, on te fait participer directement à un assassinat, en t'emmenant dans la voiture ou en te disant de faire le guet. On t'y fait participer et on te dit « voilà comment on meurt ». C'est comme tuer un oiseau ou abattre un gibier, et cela te semble facile, entre guillemets.
Alors vous avez enquêté Moscolévi beaucoup, mais pour comprendre quoi? Pour comprendre notamment ce passage à l'acte. Pourquoi, quand on est un homme, on en arrive à tuer? Est-ce que c'est aussi facile que ça en a l'air dans ce témoignage de Brusca, de ce mafioso repenti que vous avez rencontré?
Écoutez, dans le film, à un moment donné, le procureur Ayala explique que entrer dans la mafia, c'est devenir quelqu'un. Vous n'étiez personne, vous devenez un homme qu'on respecte parce qu'on vous craint. En quelque sorte. Donc, si vous voulez, bon.
C'est extrêmement bien raconté. C'est un ascenseur social.
C'est un ascenseur social. Pour eux. Voilà. Ils rentrent, tout leur devient facile. Ils ont même des réductions quand ils achètent une voiture. Mais ils aident en même temps les autres, si vous voulez. Marquez dit à un moment donné que la mafia était comme un commissariat dans certains quartiers de Palerme. Mais si vous les tuez, alors, voilà comment ça se passe. Brusca le dit, mais c'est arrivé aussi avec l'autre repenti, Anselmo, et on lui dit, tu te le sens de venir avec nous? Oui, bien sûr, il a envie de démontrer qu'il est capable. Tu fais exactement comme lui, comme celui que tu vas accompagner. Et donc, ils arrivent sur le lieu où ils doivent exécuter quelqu'un, l'homme, l'accompagnateur, tire, le jeune novice tire, et le lendemain, dans les journaux, il y a marqué, la main du tueur a tremblé. Au lieu d'en tuer un, ils en ont tué deux. Donc, le novice comprend qu'il a tué, par erreur, celui qu'il ne devait pas tuer. Il va le dire à son chef, et l'autre lui répond, mais c'est pas grave, c'est comme tuer une mouche. Non ti preoccupare, è un cornuto di meno, c'est un cocu dans un moins. Donc, vous voulez tuer, à un moment donné, vous faites comme l'autre. Et je vais vous faire un aveu. En sortant de Corleone, je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché à lire des livres sur le passage des Allemands d'hommes normaux à nazis.
Donc, sur la frontière entre l'humain et l'inhumain.
Voilà. Ouais. Et donc, j'ai lu le journal d'un bataillon de réserve, de CRS, de maintien de l'ordre. Comment ces gens, finalement, sont passés de gens qui étaient fleuristes, il y avait un fleuriste parmi eux, à exécuteurs de juifs, vieux, enfants, mères, qu'on réunissait sur une place, qu'on amenait dans la forêt, on les faisait coucher par terre, on leur tirait dessus. Si vous voulez, j'arrive pas à comprendre comment, à un moment donné, on coupe le lien avec le contact des hommes, si vous voulez, et comment on arrive à faire ce qu'on fait. Ça. Eux, c'était ça, c'était devenu des bêtes. Ils avaient coupé tout lien avec l'homme.
Ça veut dire que la vie n'a aucune valeur, en tout cas celle des autres.
La vie des autres.
Qu'est-ce qui a de la valeur, alors?
Quand ils sentent qu'eux sont menacés. Leur famille a beaucoup de valeur. Si vous voulez, c'est le drame de la Sicile, parfois. C'est que ce qui est valable pour la famille n'est pas valable pour les autres. Ils devraient partir du bien public pour arriver au bien familial, et en fait, ils font le contraire. C'est une secte. Ils étaient convaincus que c'était eux qui dirigeaient la Sicile et que, en dehors d'eux, non, ils avaient le droit de vie ou de mort sur tous les autres.
Alors, ils devenaient quelqu'un soudain en rejoignant Cosa Nostra. Ouais. Soudain, ils étaient respectés, c'est ce qu'ils vous racontent tous devant votre caméra. Ce qui rend complètement dingue l'ancien procureur du maxi-procès de la mafia de 86, Giuseppe Ayala, pour qui tout ce code de l'honneur, c'est quand même de la foutaise. Et pour qui, quand on est prêt à tuer pour se sentir exister, on n'est plus rien, finalement. Il les juge aussi très sévèrement, parce qu'il a vu les effets de ce qui s'est passé là. Comment vous avez réussi à obtenir tous ces témoignages ?
Ben, je pense par le temps, si vous voulez. Il faut, à un moment donné, rester sur place, apprendre la langue. Et on dit en italien, il tempo è un gentiluomo. Le temps est un gentilhomme, mais au sens noble, si vous voulez. Le temps était mon allié. Ma richesse, c'est le temps. Si je peux passer du temps, ça, j'arrive à obtenir ce que... Si vous voulez, si vous faites une interview de quelqu'un pendant une journée... Vous faites l'interview, vous saluez. Si vous restez avec eux pendant un bon moment, vous créez une relation. Et de fait, je pense que la seule caractéristique que j'ai, c'est que j'adore créer des relations. Mais pas pour qu'ils tombent dans un piège, pour qu'ils me disent ce qu'ils n'accepteraient pas de me dire. Simplement pour qu'ils disent qui ils sont, si vous voulez.
Des relations, vous en avez gardé avec, oui. Avec eux, mais aussi avec d'autres personnes que vous avez pu rencontrer au fil de vos documentaires. Ce procédé de face à face que vous avez mis en scène et mis en œuvre dans ce double documentaire Corleone qui sera diffusé ce soir sur Arte, Mosco Levi Bucco, vous l'aviez déjà expérimenté dans Ils étaient les Brigades Rouges, un film qui était sorti en 2011 à la rencontre des membres du commando qui avaient kidnappé Aldo Moro, le président en 78 du parti Démocratie Chrétienne, enlevé puis exécuté. Alors la lutte armée d'un côté, la mafia dans Corleone, vous gardez toujours des relations, des contacts avec certains de vos interlocuteurs.
Oui.
Et alors, lesquels ?
Vous voyez, par exemple, le geôlier d'Aldo Moro. Bon, il est décédé. J'ai perdu vraiment un ami ce jour-là, mais j'appelle sa veuve au jour de l'an. Elle attend mon appel et je suis heureux de lui donner cet appel. Si vous voulez, le geôlier d'Aldo Moro, c'est un fils de paysan, c'est un agriculteur qui, à un moment donné, a basculé dans la lutte armée. Par opposition à la guerre au Vietnam, parce que le parti communiste dont il était membre, il le trouvait un peu trop mou dans la lutte contre l'implication américaine dans la guerre du Vietnam. C'est devenu, bon, l'homme que j'ai rencontré, c'était plus celui-là, si vous voulez, c'était un homme qui venait de subir des opérations au cerveau, qui a eu des infarctus, etc. J'ai trouvé un homme sage. Et c'est devenu un ami, mais très cher. Et je dois l'avouer, il me manque. Quand je dis ça en Italie, je suis très, très critiqué. Oui, il a commis l'irréparable. Mais, vous savez, c'est pas lui qui a tué Aldo Moro. Personne voulait le tuer. Parce que quand arrive le verdict, Moretti demande à la colonne romaine, qui était 10 personnes, rien, pas plus, il demande, bon, ben voilà, on a décidé de le tuer. Qui est volontaire? Et personne ne s'est porté volontaire. Donc il a dit, j'ai compris, je dois le faire. Mais Gallinari assume. Il dit, non, d'accord. Lui a appuyé sur la gâchette, mais c'est moi qui l'ai tué. Donc, et Gallinari l'appelait Monsieur le Président. Il ne l'appelait pas prisonnier politique. Il l'appelait Monsieur le Président. Il avait un respect pour Aldo Moro.
Cette subjectivité, vous la laissez transparaître, peut-être pas au tournage, mais au montage?
Non. Si vous voulez, moi, mon école, j'ai un ami magistrat, Alain Blanc, président de cour d'assises. Vous savez, quand vous rentrez en cour d'assises, le coupable, quels que soient les crimes qu'il a commis, quand il rentre en cour d'assises, on lui dit qui vous êtes, d'où venez-vous, comment en êtes-vous arrivé, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Je suis comme ça.
Voilà, et c'est votre force, semble-t-il. C'est ce que disait d'ailleurs à votre sujet Pierre Ouverdin, policier au commissariat, que vous avez filmé pour cet autre documentaire Roubaix, commissariat central. Il disait de vous, il n'avait pas l'intention de nous juger. Il observait ce qui se passait et c'était sa force. Écoutons un extrait de ce documentaire de vous, qui a été repris depuis, adapté. En tout cas, qui a largement inspiré Arnaud Desplechin.
Pierre Ouverdin, j'aimerais beaucoup retrouver.
Actuellement en salle.
En clair, tu as commis un vol. Je pense que tu vas finir par nous l'avouer. Hein. Ça me paraît évident. Il y a trop d'éléments contre toi. Si tu nous mens pour le vol, on va imaginer que tu as quelque chose à voir pour la mort de Micheline. Ah voilà, Non, mais voilà, attends.
Je vais quand même pas avouer un meurtre que je n'ai pas fait.
Qui l'a fait alors? Qui l'a fait? C'est Stéphanie qui forcément dans GK2.
On n'a pas touché à Micheline.
Il y a quelque chose qui s'est passé.
Alors comment ça se fait qu'elle dit que c'est toi qui l'as tué?
Hein?
Ben réveille-toi un peu, putain!
Hé, hey, t'es dans la merde! Réveille-toi, vite, sors, faut que ça sorte!
Donc elle voit le tertion. Et là, elle te rappelle qu'il faut la tuer. C'est ça que tu dis? Continue à m'expliquer alors.
Quand elle s'est réveillée, il était trop tard pour reculer.
Donc?
Et Stéphanie m'a dit, il n'y a pas de chance, aller jusqu'au bout.
Ok.
Voilà, le réalisateur Arnaud Desplechin qui raconte avoir eu vraiment un choc quand il a vu ce film, ce documentaire de vous, Moscou Lévy, diffusé sur le petit écran et qui a choisi de l'adapter en fiction, de le mettre en scène, comme il dit. Plus qu'un emprunt, c'est un hommage. Ça a été un film qui a été marquant pour vous?
Oui, j'ai vécu une expérience très très forte. Ça a été difficile d'y aller. J'ai été accompagné par deux amis, Marie Genin et Serge Julie, à qui je montrais mes rushs parce que c'est déprimant d'aller à Roubaix. Et en même temps, c'est fascinant parce que les gens de Roubaix sont très, très attachants. Et comme je le dis, c'est comme je vous dis tout à l'heure, si vous voulez, s'il y avait davantage de culture à Roubaix, et il y en a maintenant, s'il y avait davantage de culture à Roubaix, je pense qu'il y aurait moins de misère, beaucoup moins de misère morale. Et le crime que j'ai, enfin, que les deux filles, Annie et Stéphanie, ont commis, moi, en un sens, je suis content qu'Arnaud ait repris ce film, parce que moi, je ne veux plus qu'on le diffuse. Parce qu'une des deux protagonistes a un fils et je ne veux pas qu'il voit ce qui s'est passé autrefois. Ils ont le droit, eux aussi, ils ont payé, ils ont droit à une nouvelle vie, comme les repentis. Les repentis ont été, ils ont le droit d'être.
Une filmographie sombre, malgré tout, oui. Moscou Lévy, oui. Beaucoup, dans les méandres de l'âme humaine, et pour alléger parfois un tout petit peu tout ça, il y a un pas de côté, c'est le sourire dans vos films, la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence, disait Gainsbourg, pour vous c'est l'humour, le sourire, la blague, comme celle que vous collectionnez pour une série que vous avez réalisée, qu'on peut voir sur un site que vous avez créé sur Internet.
Vous voulez une blague corléonaise, on a le temps.
Rapidement,
quoi.
Très rapidement.
Ben, c'est un corléoné qui arrive à New York, à l'aéroport JFK, Kennedy. Ah non, je peux
si,
pas.
Si, allez-y, vite, vite.
Il arrive, et il a une petite valise, et le douanier lui dit, mais dites-moi, vous avez quoi dans cette valise? Ben rien, des affaires de rechange, une trousse de toilette et une calculatrice. Le douanier, un peu méfiant, a dit, ouvrez la valise. Il ouvre la valise et il voit effectivement des affaires de toilette, une trousse et une Kalachnikov. Il dit, vous appelez ça une calculatrice? Oui, nous, à Corleone, on règle nos comptes avec ça.
Merci beaucoup à vous, Moscou Lévy, beaucoup merci.